Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de Radio Vatican. Merci d'être en notre compagnie pour cette autre édition de notre programme. Pour ce mois de février, le pape invite à prier pour les vocations sacerdotales et religieuses, car aujourd'hui encore, Dieu continue d'appeler les jeunes, parfois de manière inimaginable. Plus de détails juste après les titres. Heureux celui qui n'a pas perdu l'espoir, c'est le thème choisi par le pape pour la 5e journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées qui cette année sera célébrée le dimanche 27 juillet. Pour l'actualité de l'Église en Afrique, nous serons en République démocratique du Congo. Dans un message rendu public lundi 3 février, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a exprimé sa compassion et sa solidarité aux populations des provinces du Nord et du Sud Kivu, suite à la prise de la ville de Goma la semaine dernière par le M23. Nous serons également au Rwanda pour parler de la célébration de la Journée mondiale de la vie consacrée dimanche, une célébration qui a clôturé le jubilé de la vie consacrée à l'occasion des 125 ans de l'évangélisation du pays. Après l'actualité sociopolitique africaine, vous entendrez le père Godefroy Manunga, provincial de la Société du Verbe Divin en République démocratique du Congo. Il nous parlera notamment des défis de sa congrégation qui vient d'être accueillie dans le diocèse de Kinshasa. Et nous terminerons cette édition de notre programme par la rubrique prise de position des évêques et vie des chrétiens dans le monde.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
Pour les vocations sacerdotales et religieuses, c'est l'intention de prière du pape pour le mois de février 2025. Le Saint-Père invite à prier pour que la communauté ecclésiale accueille les désirs et les doutes des jeunes qui ressentent l'appel à vivre la mission de Jésus dans la vie sacerdotale et religieuse. Cette thématique amène le pape à parler des jeunes et de l'importance fondamentale de les accompagner dans leurs aspirations comme dans leurs préoccupations. Stanislas Kambashi.
Quand j'avais 17 ans, j'étais étudiant et j'ai travaillé. J'avais des projets. Je ne pensais absolument pas à devenir prêtre. Mais un jour, je suis entré dans la paroisse et Dieu était là, m'attendant. Rappelle le pape jésuite qui a été ordonné prêtre en 1969. Aujourd'hui encore, Dieu continue d'appeler les jeunes, parfois de manière inimaginable. Parfois, nous ne l'écoutons pas parce que nous sommes trop occupés avec nos affaires, nos projets et même nos occupations de l'Église, affirmait-il. Le Saint-Père exhorte à écouter l'Esprit-Saint lorsqu'il nous parle aussi à travers les rêves et à travers les préoccupations que les jeunes ressentent dans leur cœur. Pour lui, il est essentiel d'accompagner les jeunes sur leur chemin. Ainsi, nous verrons comment Dieu fait des choses nouvelles avec eux. Nous pourrons accueillir son appel de manière à mieux servir l'Église et les mondes d'aujourd'hui. De ce fait, le pape François invite à faire confiance aux jeunes et surtout à faire confiance à Dieu qui appelle chacun d'entre nous. Prions pour que la communauté ecclésiale accueille les désirs et les doutes des jeunes qui ressentent l'appel à vivre la mission de Jésus dans la vie, que ce soit la vie sacerdotale, que ce soit la vie religieuse, exhorte le pape.
Merci à vous Stanislas Kambashi. Heureux celui qui n'a pas perdu l'espoir. C'est le thème de la 5e journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées qui sera célébrée cette année le dimanche 27 juillet. Ces paroles tirées du livre du Siracide expriment la béatitude des personnes âgées qui indiquent que l'espérance placée dans le Seigneur est le chemin d'une vieillesse chrétienne et réconciliée. En cette année jubilaire, la journée instituée par le pape François en 2021 se veut une occasion de réfléchir à la manière dont la présence des grands-parents et des personnes âgées peut devenir un signe d'espérance au sein de chaque famille et de chaque communauté ecclésiale. Le dicastère pour les laïcs, la famille et la vie renouvelle l'invitation du pape François à célébrer cette journée dans chaque diocèse et à dédier les célébrations du dimanche 27 juillet aux personnes âgées en promouvant les visites et les occasions de rencontres entre les générations. C'est avec grande tristesse et beaucoup d'inquiétude que la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, affirme suivre la dégradation de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, aggravée particulièrement avec la prise de la ville de Goma la semaine dernière par la coalition rebelle AFC-M23, appuyée par le Rwanda, et l'avancée de cette dernière vers la ville de Bukavu. Tout en leur exprimant leur proximité spirituelle, les évêques congolais réitèrent leur appel en faveur du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC ainsi que dans les Grands Lacs. L'Église a célébré dimanche 2 février en la fête de la présentation du Seigneur au Temple, la journée mondiale de la vie consacrée. Au Rwanda, cette fête a été marquée par la messe solennelle du jubilé de la vie consacrée, l'une des grandes célébrations du jubilé des 125 ans de l'évangélisation du pays. Dans son homélie au cours de cette messe solennelle qu'il a présidée au sanctuaire marial de Kibeo, le cardinal Antoine Kambanda, archevêque de Kigali, a rendu grâce à Dieu pour le don de la vie consacrée à l'Église et au monde. Il a exhorté toutes les personnes consacrées au don total de leur vie dans la fidélité à leur identité charismatique et surtout à veiller à la qualité de la formation dispensée dans les instituts religieux. Le père Eugène Niyonzima est le président de la Conférence des supérieurs majeurs du Rwanda. Pour lui, cette célébration est un appel à demeurer fidèle à leur mission de témoin de l'espérance. On écoute.
Le message à retenir pour moi-même et pour toutes les personnes consacrées œuvrant au Rwanda, c'est de tenir bon dans notre mission de témoin de l'espérance, de la fraternité et de la paix. Car, malgré les défis du temps et de l'espace auxquels nous faisons face au quotidien, le monde a encore besoin de témoins fidèles à leur mission, peut-être plus que jamais. Notre prière, c'est que le Seigneur nous garde fidèles dans notre mission ici au Rwanda et ailleurs, et que nous puissions toujours compter sur ses grâces et vraiment témoigner convenablement de son amour parmi son peuple.
L'actualité sociopolitique africaine à présent. Plusieurs centaines de Congolais ont manifesté mardi devant la délégation de l'Union européenne à Pretoria en Afrique du Sud pour réclamer des sanctions européennes contre le Rwanda après l'avancée fulgurante du M23 et de troupes rwandaises dans l'est de la RDC. Ils étaient près de 2000 manifestants abordant pour la plupart les couleurs de leur pays. La situation en RDC est similaire à celle de l'Ukraine, a indiqué un manifestant congolais. Nous demandons à l'Union européenne que les mesures appliquées à la Russie le soient aussi au Rwanda et à son président Paul Kagame. Nous voulons des sanctions ciblant ces gens-là. Nous n'avons pas de problème avec nos frères, le peuple rwandais, a-t-il ajouté. D'autres manifestants ont dénoncé le protocole d'accord sur les matières premières signé entre l'Union européenne et le Rwanda en février 2024. Pour tenter de trouver une solution à cette situation dans l'est de la RDC, la présidence kényane a annoncé lundi que le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame participeront samedi à Dar es Salaam à un sommet extraordinaire conjoint de la communauté des États d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe. Sur le terrain, le M23 a annoncé lundi soir décréter un cessez-le-feu à partir du mardi 4 février pour des raisons humanitaires. 5 personnes ont été tuées mardi dans des tirs contre l'une des dernières installations médicales, l'hôpital Al-Nao, en service à Omdurman, ville voisine de Khartoum, selon des sources médicales qui ont imputé l'attaque aux paramilitaires. Les missionnaires de la Société du Verbe Divin sont désormais en service dans le diocèse de Kinsantu, dans la province du Congo central, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo. Ils ont été accueillis chaleureusement par l'ordinaire du lieu, Mgr Jean-Crispin Kimbeni, le dimanche 19 janvier 2025, date à laquelle a été érigée la sous-paroisse Saint-André du territoire de Madimba, en hommage au fondateur de leur congrégation, le saint allemand Arnaud Claude Janssen. Le père Godefroy Manunga est le provincial de la Société du Verbe Divin en RDC. Ils nous fait une relecture historique de leur présence missionnaire dans ce pays d'Afrique centrale, tout en soulignant les défis qui sont les leurs dans le diocèse de Kinshasa.
La première génération SVD est arrivée au mois d'octobre 1951 en RDC, sans compter les quatre missions que nous ont laissées les pères jésuites, les jésuites à l'époque, à savoir Kimbao, Ngui, Saint-Hippolyte, Bandundu et Beno. La plupart des paroisses de l'actuel diocèse de Kenge ont été fondées par nos aînés pionniers de la mission SVD sont arrivés en octobre 1951, comme je l'ai dit. Et alors, entre-temps, nous avons, la SVD s'est progressivement implantée dans l'archidiocèse de Kinshasa. Je pense à la paroisse Christ et Roi de Kasavubu et à la paroisse Saint-Vincent de Paul de Kimbangu. Et plus tard encore au diocèse de Kikwit, diocèse de Kole. Nous avons abandonné Kole à cause de la guerre.
Et maintenant que vous débutez votre service dans le diocèse de Kisantu, quels sont les défis que vous pourriez relever et qui demanderaient une attention particulière dans cette vigne du Seigneur?
Invité au diocèse de Kisantu, comme vous le dites, les défis à relever sont multiples. Permettez-moi de ne citer que trois ou quatre, connaissant notre congrégation et la réalité missionnaire présente au Congo central et précisément au diocèse de Kisantu. Je commence par l'apostolat biblique parce que Monseigneur l'évêque de Kisantu m'a dit dès les premiers contacts sur le projet d'implantation de la SVD qu'il nous invitait non parce qu'il n'a pas beaucoup de prêtres, mais surtout parce que nous avons un charisme actuel, toujours actuel dans l'Église, l'apostolat biblique. Il aimerait donc que la SVD s'engage dans l'animation biblique et spirituelle à travers le diocèse. Le second défi à relever, à mon avis, c'est la promotion du dialogue œcuménique et interreligieux. Dans cette première évangélisation, les milieux où nous serons est majoritairement protestant. La communauté baptiste au Congo, que nous appelons Sebeko, et les kimbanguistes y sont bien implantés. Donc, la promotion du dialogue œcuménique, à mon avis, cadre bien avec la spiritualité de notre fondateur. Je vois un troisième et un dernier peut-être, si vous voulez, c'est la promotion humaine. La promotion humaine, le développement intégral des personnes et des communautés à notre charge. Parce que le peu de temps passé ici et le tour des lieux que nous avons fait nous ont montré des signes de pauvreté matérielle dans la région, bien que les diocèses regorgent de beaucoup d'écoles et de structures de santé. L'électricité est là, est disponible, mais l'eau pose un problème sérieux, d'où les forages, ou bien un peu aider les gens dans l'agriculture aussi. Moi, je trouve que ça, ce serait des défis, entre autres, à relever dans cette nouvelle mission qui s'entoure.
Le père Godefroy Manunga, provincial de la Société du Verbe Divin en RDC, interrogé par Christian Losambe, avec qui nous restons pour la rubrique prise de position des évêques et vie des chrétiens dans le monde.
Ouvrons cette rubrique avec la fête de la présentation de Jésus au Temple, célébrée dans l'Église universelle dimanche 2 février 2025. En cette date, en effet, l'Église met à l'honneur les vies consacrées. Cette vocation particulière de prière pour le monde n'est pas limitée aux religieux ou à la vie monastique, elle s'étend aussi aux laïcs. Odile Maki est veuve et présidente de la Fraternité des Sœurs Notre-Dame de la Résurrection et elle témoigne des nombreux appels que le Seigneur envoie aux veuves du monde entier. Elle revient également sur le sens particulier de son charisme. On l'écoute.
Alors, nous avons été guidés, en fait, pendant 35 ans par le prophète de l'amour conjugal, le père Caffarel, qui a remis dans l'Église le sens du mariage chrétien comme vocation de sainteté. Et donc, on est resté dans cette ligne. Et dès le début, dès le premier jour quasiment de cet appel dans le cœur des femmes, il y avait le désir d'offrir à Dieu quelque chose pour que dans la vie conjugale, il y ait un chemin de sainteté, quoi. Offrir sa vie à Dieu pour que les couples, les foyers vivent bien leur amour. Alors, après, bien sûr, ça s'accompagne de prières. Donc, bien évidemment, on a une règle de vie qui comporte de la prière, en particulier la vie d'oraison. Et puis, ensuite, en ce qui concerne l'agir, alors là, c'est extrêmement variable. Il y a des personnes qui ont un peu de temps, mais en général, nos amis, nos sœurs, entre guillemets, elles sont impliquées dans la vie paroissiale, presque toutes.
Recevant lundi en audience plus de 1200 fidèles unis au sein de la même conférence épiscopale nordique, le pape François a invité les fidèles de Suède, de Norvège, du Danemark, de Finlande et d'Islande, venus en pèlerinage à Rome, à être des phares d'accueil pour ceux qui sont en marge, pour les réfugiés. À ces églises très minoritaires mais bien vivantes, François leur a également demandé de témoigner de la réconciliation et de la paix, alors que souvent une remilitarisation s'opère dans leur pays, choquée par l'agression russe en Ukraine. Suivant à ce propos le témoignage du cardinal Anders Arborelius, l'évêque de Stockholm en Suède, depuis 27 ans, des propos recueillis par Marie Duhamel.
Pour nous, comme minorité en Suède, c'est une chose très difficile de juger, mais la mentalité a changé très rapidement après la guerre en Ukraine. Et comme il y a beaucoup de réfugiés chez nous, on se sent très attaché à la cause d'Ukraine. On aurait désiré une autre situation, mais pour le moment, on ne voit pas d'autre solution dans la population en général. Mais naturellement, les églises, et il faut le dire aussi les religions en général, cherchent de faire une contribution, de travailler pour un dialogue sur la paix et la réconciliation. On cherche de trouver une voie commune de toutes les églises, parce que nous sommes une très très petite minorité, donc on n'a pas la possibilité d'enlever la voix comme ça. Mais pour le moment, c'est pas facile, vraiment.
En Amérique latine, en Bolivie, à l'occasion de la fête de la présentation du Seigneur et de la journée mondiale de la vie consacrée, Monseigneur René Leigue, archevêque de Santa Cruz, depuis la cathédrale San Lorenzo Martyr, a exhorté la communauté à agir en conscience dans une période d'incertitude et de confusion. Il a évoqué également le contexte politique du pays, notamment avec le début des campagnes électorales pour les élections présidentielles du mois d'août 2025. Il a donc invité les fidèles à ne pas se laisser emporter par des impulsions ou des sympathies et à évaluer dans une période difficile si les autorités gouvernantes remplissent leur mission et les a exhortés à discerner avec responsabilité les décisions qui affectent l'avenir de la société. L'archevêque de Santa Cruz a conclu en exhortant les fidèles à prier pour les autorités et pour la vie consacrée, rappelant que les religieux et religieuses sont appelés à être la lumière au sein de la communauté. Et enfin, au Nicaragua, la répression de la dissidence se poursuit. Plus de 30 religieuses de l'ordre de Sainte-Claire, en effet, connues sous le nom de Clarisse, ont été expulsées des trois monastères nicaraguayens de Managua, Matagalpa et Chinandega dans la nuit du 28 au 29 janvier 2025. En mai 2023, les autorités de Managua ont dissous l'association des franciscaines Clarisse et 9 autres réalités et organisations. Plusieurs congrégations religieuses ont été partiellement ou totalement expulsées du Nicaragua ces dernières années, notamment après les consultations controversées de novembre 2021, au cours desquelles Daniel Ortega a été réélu pour un 5e mandat, le 4e consécutif.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
À mes auditeurs, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition de notre programme. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. À très bientôt.
Quand le cœur est blessé, quand la vie est brisée, quand on est déchiré, est-ce possible d'aimer quand on est bafoué? Que l'on est rejeté, quand on est méprisé, est-ce possible d'aimer? Oui, c'est possible.